a une richesse extraordinaire de cet élan du socialisme au sens large qui se manifeste et qui dont se nourrissent Marx, Proudhon, Bakounine, et qui ne sont absolument pas isolés et qu'il faut absolument comprendre. Et la thèse que je développe d'anarchisme et changement social, au fait, c'est ça, c'est pas autre chose. C'est-à-dire que en même temps que naît un mouvement socialiste, social, ouvrier, s'affirme aussi en même temps et quasiment simultanément plusieurs manières qui sont tantôt opposées, tantôt complémentaires, d'envisager le changement social d'emblée. Et que, en fonction ensuite de la situation du moment, du rapport de force, etc., il y a plutôt une conception qui a tendance à l'emporter plutôt qu'une autre. Et que cela, c'est valable aussi pour l'anarchisme, c'est valable aussi pour la plupart du socialisme. C'est-à-dire que, moi je parle d'insurrectionnalisme, de syndicalisme et d'occasionnisme réalisateur comme des types idéaux. Et donc à partir de ce type idéaux, ben, on voit comment, ben, dès le départ, ces idées, ces pratiques telles qu'elles sont élaborées, eh ben, apparaissent simultanément. Simultanément, il y a les luddistes qui veulent détruire des machines et qui utilisent vraiment la violence insurrectionnelle. Et en même temps, il y a ben, les gentils travail, coopérateurs. Hein. Non, moi je parle de 1820, 1830.
Ah, tu parles vraiment de cette époque.
Du début. C'est-à-dire que dès le départ, il y a ça. Et donc, bien souvent, ensuite, la société évolue. Donc, on ne peut pas parler de syndicats modernes dès 1830. Mais, bien évidemment, ça serait là un contresens. Mais par contre, c'est ces idées qui s'affirment pratiquement simultanément et qui ensuite elles évoluent. Et il faut absolument les prendre en compte pour essayer de comprendre ce qui s'est passé et la manière comment ensuite ça peut évoluer dans le temps. Et donc c'est plutôt que d'avoir une démarche idéologique, dogmatique ou téléologique. Moi j'ai une démarche compréhensive. Je vais essayer de comprendre ce qui s'est passé. Et c'est dans ce sens-là que je ne veux pas enfermer les progrès des combats sociaux dans un combat entre deux chefs.
Voilà. Oui, je suppose que c'est comme pour toutes les formes de pensée. Un art, par exemple, à une époque, on ne retient que ceux qui ont fait des œuvres les plus marquantes. Alors que c'est une effervescence généralisée, qu'il y a des tas de Baudelaire, de petits Baudelaire, ou de Flaubert, de petits Flaubert, etc., et qu'à un moment donné, il y en a qui synthétisent ça, et on ne retient que ce qui s'est fait de plus puissant sur le moment. Mais
moi, quand je me suis mis à travailler il y a 25 ans, autour de 48, moi j'étais vraiment frappé, incroyablement frappé par la richesse. C'est-à-dire que tout avait été déjà dit, ou presque. Pas tout à fait dans la même manière, etc. Et que souvent, par exemple, les anarchistes n'ont fait que reprendre, mais tel quel, dans le bien ou dans le mal, tout un tas d'oppositions, où j'ai cité Fourier, mais il n'y a pas que Fourier. Il y a tout un tas d'autres auteurs à qui on a emprunté des raisonnements, etc., et qui ont nourri ensuite même les courants de pensée les libertaires. Et donc l'anarchisme, de même que le marxisme, il ne naît pas, il n'y a pas une génération spontanée qui surgit à un moment X de l'histoire et qui est menée par des grands penseurs. Ce sont des pratiques émancipatrices qui sont mises en place, testées, élaborées, amendées, par toute une myriade de militants de base, etc., et aussi par une myriade d'auteurs qui cherchent à interpréter ce mouvement. Et par exemple, le grand mérite de Marx, c'est que lui, il avait les idées beaucoup plus claires que d'autres. Voilà, ça, c'est un mérite énorme de la part de Marx, qui le rend d'ailleurs arrogant. Et lui, il n'arrivait pas à comprendre pourquoi des personnes qui lui arrivaient même pas à la cheville avaient du succès, tandis que lui, qui avait vraiment une conscience des choses, et c'était vrai, il voyait les choses d'une manière plus précise que d'autres, et bien lui, personne ne s'en occupait. Et ça lui donnait les boutons. Mais il faisait des crises somatisées. À mon avis, là, il ne faut pas aller chercher midi à que, et sous son côté mauvais. C'était à cause de ça. J'ai une clé psychanalytique par rapport à ça. Et moi, je pense que c'est vraiment quelque chose d'important. Il ne pouvait pas piffer les Français. Pourquoi il n'aimait pas les Français? Parce que c'était des radoteurs. la République, la France, la nation, là ceci, nous allons régénérer le monde entier et tout. Bon, tu dis avec quoi? Avec un discours qui était totalement creux, en disant oui, allons nous adresser à la bourgeoisie, etc. Parce que par exemple, Fourier, c'est bien gentil, mais il attendait le mécène qui finance la réalisation de son objectif. Bon, et là, Marx, là, il est disciple, c'est encore pire. Je veux dire, ils étaient en train d'attendre qu'on leur donne des sous. Owen lui-même qui s'adresse à la bourgeoisie pour dire ben, aidez-moi à réaliser mes projets. Et donc il y a tout un tas de choses comme ça qui font dresser le poil sur la tête à Marx de l'époque. Et il a raison, puisqu'il voit tout de suite les limites. C'est-à-dire que d'un côté, il prend conscience de la radicalité de ses projets. Peut-être mieux que les autres, et en même temps il est scotché par une pratique qui est très en deçà et qui reste prisonnière, par exemple, de la Révolution française, de la suprématie de la France, des choses que qui restent encore un peu aujourd'hui, mais que ça nous fait sourire, mais qu'à l'époque c'était carrément la France qui était en tête de l'émancipation du genre humain. Bon, des représentations comme ça, ouais. Donc il y a toutes les nations qui sont placées derrière.
Et par rapport à ce rôle de la bourgeoisie, est-ce que c'est pas la Commune de Paris qui a donné la limite de ce qu'on pouvait attendre de la bourgeoisie? Des gens comme Reclus, par exemple, qui à ce moment-là vont comprendre qu'on ne peut plus s'appuyer sur
la bourgeoisie. En fait, la cassure, parce qu'il y en a eu plusieurs de cassures, la vraie cassure, c'est juin 48. C'est la répression de, bah, quand on réprime le soulèvement des ouvriers des ateliers nationaux. C'est là qu'il y a vraiment une cassure. Il y a un avant et un après, en termes symboliques.
C'est l'évolution de 48, c'est vrai, ont été un peu oubliés.
Ah non, mais c'est juin 48, même Proudhon. Alors le problème, 48. C'est qu'il y a une cassure qui est symbolique, qui se retrouve par exemple au niveau des chansons. Des auteurs que jusque-là ils exaltaient la République dans leur poésie, etc. Je vais en citer deux, Déjacques et Potier. Potier, c'est quand même l'auteur de l'International, n'est-ce pas? Et Déjacques, c'est quand même lui qui a inventé le mot libertaire. Bon, donc c'est pas des personnes n'importe qui. Donc ils écrivaient, ils étaient poètes. Avant, il y a une chanson de Potier dans laquelle il se moque du drapeau rouge. Il dit ça doit être la couleur des hommes sous. Bon. Et alors là, il y a juin 48, la répression de la bourgeoisie, et donc là, il y a vraiment une cassure, quelque chose qui se passe. Même si, disons, les conséquences pratiques de ça, effectivement, il faut attendre la Commune. Et encore. Et là, justement, l'historien, il intervient pour montrer toutes les difficultés qui peuvent exister. Mais cela est valable aussi avec le concept de nation. L'internationalisme, qu'est-ce qu'il faut entendre par internationalisme? La République, est-ce qu'on peut continuer à se réclamer dans la République ou pas? La démocratie, est-ce qu'il n'y aurait pas des fractions de la bourgeoisie démocratique avec lesquelles, malgré tout, on pourrait travailler ensemble? Mais ça, c'est les vraies questions qui se posent. C'est les vraies questions qui se posent sur un siècle. Voilà, et qu'aujourd'hui, bon, on ne peut pas reformuler tout à fait de la même manière, mais qui ont alimenté véritablement des débats et qui ont constitué à un moment donné des véritables points de rupture.